Enjeu de santé, le magazine prévention santé de SILAB.
En partenariat avec l'Agence régionale de la santé et la région Bretagne.
Enjeu de santé est allé à la rencontre du docteur Guy Léry, médecin addictologue au pôle addiction et précarité du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Notre reporter a pu discuter avec le docteur Guy Léry de drogue, et plus précisément de l'héroïne, de la cocaïne et de la MDMA. Ils ont tous deux dressé un tableau assez large de ces stupéfiants en espérant répondre à nos interrogations sur ces drogues dures. Mais peut-on vraiment parler de drogues dures ?
C'est un lexique en effet qu'on utilise moins, parce que la notion de drogue dure implique des conséquences importantes, implique un phénomène de dépendance importante. Et en fait, sur le marché des produits, l'alcool et le tabac peuvent être du coup considérés comme des drogues dures, vu que ce sont quand même des produits qui tuent le plus. Donc c'est un discours qu'on a aujourd'hui arrêté d'utiliser. On parle de produits psychoactifs avec des effets variables et non plus de drogue douce et drogue dure. En plus, la notion de drogue douce a quelque chose de péjoratif, c'est que c'est considéré comme quelque chose de moins nocif, ce qui est rarement le cas.
Et existe-t-il une classification de ces drogues ?
En effet, il existe plusieurs types de classifications. Moi, j'en utilise une qui, je trouve, est plutôt intéressante, c'est de classer les produits par effet, par type d'effet. Donc, on va classer les drogues en drogues excitantes, dont fait partie, par exemple, la cocaïne, la caféine, des drogues relaxantes, calmantes, dont font partie les opiacés, l'héroïne, et des drogues de type hallucinogène, dont fait partie le cannabis, l'ecstasy, voilà. Donc en fait, on a cette forme de classification qui est juste une classification sur les effets, mais on peut en trouver bien d'autres en fonction des conséquences sur la santé, en fonction de mécanismes d'action, enfin voilà. Mais je trouve que cette classification est assez pratique, finalement. Visualise bien le type d'effet et du coup aussi le type d'effet recherché par le consommateur.
Donc si on se focalise sur la cocaïne, l'héroïne et l'ecstasy, chimiquement, que sont ces drogues ? Est-ce que ce sont des drogues naturelles ou ce sont des drogues synthétiques ?
Alors la plupart sont des drogues naturelles, mis à part en effet le LSD ou l'ecstasy qui sont des drogues de synthèse. Ce qu'il y a de plus sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire en effet, l'héroïne et la cocaïne, en tout cas les situations pour lesquelles on rencontre le plus de patients, le cannabis aussi en fait partie, sont des drogues naturelles, qui sont plus ou moins transformées, plus ou moins raffinées. Les drogues de synthèse sont plus du registre de la drogue, je dirais, festive, occasionnelle, ponctuelle, avec des intensités assez variable, avec des concentrations aussi très variables. Et c'est un autre réseau, c'est un autre fonctionnement finalement de tout ce qui peut être fourniture de ce type de produit.
Et quels sont les effets recherchés par ces trois drogues ? Je suppose qu'ils sont différents également.
Alors, l'effet recherché de base, de toute façon, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'en effet, quand quelqu'un consomme une drogue, quelle qu'elle soit, il est dans une recherche de plaisir, de bien-être, de détente. Donc ça, c'est l'effet recherché systématique. Après, il peut y avoir un effet plus ou moins intense de défonce. Donc là, c'est avoir une sensation la plus rapide et la plus forte possible de déconnexion. Ça, ce sont les effets recherchés. Après, sur les effets réalisés, ils sont assez variables en fonction du produit et puis aussi en fonction de l'état d'esprit de la personne au moment où elle consomme. Alors c'est sûr que si vous consommez de l'héroïne, vous allez avoir un effet qui va être plutôt relaxant, alors que si vous consommez de la cocaïne, vous allez avoir plutôt un effet excitant. Mais au départ, c'est quand même la dimension plaisir qui est recherchée. Et là où ça devient problématique, c'est, en dehors de l'aspect juridique et l'interdit, c'est que pour certaines personnes, cet aspect plaisir petit à petit va prendre la place d'un besoin et va s'installer une nécessité de consommer le produit pour se sentir bien. Donc là, on voit qu'on passe de quelque chose qui peut être du récréatif à quelque chose qui va devenir presque thérapeutique pour la personne. C'est une manière de comprendre un peu comment se met en place le mécanisme d'addiction à partir de consommation de ces substances.
Où ces drogues agissent-elles en fait sur notre organisme pour provoquer justement cette sensation de plaisir et après voire d'addiction ?
Alors, ces drogues agissent toutes finalement à peu près au même endroit. dans une zone qu'on appelle le système de récompense, c'est une zone cérébrale, et cette zone va être excitée et produire ce qu'on appelle un neuromédiateur, c'est une molécule qui dans le cerveau est plus ou moins abondante, et cette molécule en priorité c'est la dopamine. Et finalement, dès que vous consommez une substance, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, l'ecstasy ou autre, eh bien ça provoque un flot dans votre cerveau de dopamine qui amène du coup cette sensation de bien-être et de détente. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ces questions-là. Et il y a des gens qui vont déclencher des réactions beaucoup plus fortes que d'autres. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du génétique et quelque chose qui se met en place d'emblée chez ces personnes-là. Donc une fragilité qu'on découvre souvent dans un deuxième temps et une fragilité qui fait que si cette personne rencontre la substance, eh bien elle est susceptible, plus qu'une autre, de développer ce besoin et cette dépendance.
Oui, justement, quels sont les risques de dépendance ?
Alors, on va parler plutôt de dépendance physique ou de dépendance comportementale. C'est-à-dire que dépendance physique, c'est vraiment le besoin exprimé par le corps d'une substance. C'est-à-dire vous vous levez le matin et votre corps, il exprime des signes de manque de cette substance. Des tremblements, des sueurs, des vomissements, voilà. Donc ça, ce sont vraiment toutes les caractéristiques d'une dépendance physique. Et on sait qu'il y a des produits qui développe très rapidement une dépendance physique. Par exemple, l'héroïne, c'est un produit, il faut quelques semaines de consommation pour développer une dépendance physique. L'alcool, il va falloir plusieurs années de consommation régulière pour développer une dépendance physique. Voilà, ça dépend un peu le tabac, c'est un produit qui accroche très très rapidement aussi et qui crée une dépendance physique très très rapide et très forte. Donc, cette dépendance physique, elle s'exprime à travers des manifestations physiques de manque. C'est-à-dire que votre cerveau, il n'a pas sa dose et il va déclencher des mécanismes chimiques qui vont provoquer des manifestations de manque. Et puis, ça c'est une première partie qui n'est finalement pas si compliquée que ça à régler, parce qu'on a maintenant des molécules, des médicaments qui permettent d'éviter ça, les signes de manque. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la dépendance comportementale. C'est-à-dire que c'est tout ce côté rituel, tout ce côté habitude de la consommation qui fait que la personne organise son quotidien autour de la consommation. Et du coup, elle s'est comme programmée à utiliser dans la journée ces produits-là. Et le travail de déconditionnement finalement de cet usage est finalement assez compliqué, hein, parce que ça passe par plusieurs processus. Il y a un mécanisme de deuil à faire de la consommation, il y a une réorganisation de la journée, une réorganisation des activités, une réorganisation du relationnel, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont liées à cette dépendance comportementale et cognitive.
Et comment cela se fait que des drogues, on va dire, rendent plus accro que d'autres ?
Alors, ce qui provoque une dépendance physique plus forte, c'est l'impact plus ou moins intense que le produit peut avoir sur le cerveau. Plus l'accrochage cérébral est fort, plus la stimulation est forte et plus l'absence de produits crée un manque. Bon. Il y a quelque chose d'assez caractéristique, par exemple, sur le tabac, c'est que quand vous fumez et plus vous provoquez de récepteurs nicotiniques. Voilà. On a tous des récepteurs nicotiniques, même si on n'est pas fumeur, mais plus on fume et plus on provoque de récepteurs. Les opiacés, c'est exactement pareil. Voilà. Et du coup, ça veut dire que le jour où vous arrêtez d'apporter cette substance nicotine ou morphine, eh bien, votre cerveau qui a produit une somme importante de récepteurs déclenche vraiment des signes de manque importants. Donc c'est pour ça qu'il y a certains produits qui provoquent une dépendance plus forte et plus rapide que d'autres.
Et la présence de ces récepteurs est-elle irréversible ?
Non, justement, c'est tout le côté rassurant de l'affaire, c'est que c'est réversible. Par contre, ça disparaît au bout d'un certain nombre de semaines. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de très très rapide. Mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la dépendance physique, c'est quelque chose qui se traite relativement bien et relativement vite. Mais ce qu'on observe, c'est que dans un processus de dépendance et d'addiction, c'est beaucoup plus compliqué que simplement la dépendance physique. Et c'est, par exemple, pour ce qui est des opiacés, on utilise des médicaments qui sont le chlorhydrate de méthadone et la buprénorphine, parce que ce sont des molécules qui vont se mettre à la place de l'héroïne, finalement. Et on se dit, on pourrait se dire, comme la molécule prend la place, du coup, il n'y a plus de soucis, la personne ne souffre plus. Voilà. Sauf qu'il y a tout le vécu qu'il y a derrière, il y a toute l'organisation, il y a tout le relationnel qui fait que bah, si la personne peut continuer à consommer malgré ces substances. Donc, c'est clair que la question du physique n'est qu'une petite partie de l'iceberg qui concerne l'addiction. Quoi.
Et est-ce différent de consommer ces drogues par ingestion, insufflation ou injection ?
Alors, c'est vrai que le fait de consommer une drogue en la fumant ou en l'injectant ou en la sniffant n'a pas tout à fait, un, le même effet et deux, les mêmes conséquences. C'est-à-dire que quand vous consommez un produit en injection, par exemple, si l'ambiance s'y prête et que vous êtes plusieurs à consommer et que vous échangez du matériel autour de l'injection, eh bien on sait qu'il peut y avoir des risques de contamination. Si une personne est atteinte, par exemple, de l'hépatite C ou du sida, eh bien il y a un risque de contamination qui est important. Bien plus important que si vous sniffez le produit. Il existe aussi ce risque, mais il est moindre. Et très différent aussi de si vous le fumez, où là, il n'y a pratiquement pas de risque. En termes de conséquences, c'est quand même très différent. En termes de comportement, c'est aussi très différent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la gestuelle de l'injection, il y a quelque chose aussi de l'ordre du rituel qui est très fort. Et quand les gens arrêtent de consommer des substances, parfois, ils continuent même à injecter autre chose, juste pour le plaisir de l'injection, le rituel et tout ce que ça peut amener. Et ce qu'on a démontré, hein, c'est que même sans consommer de l'héroïne, des gens, simplement le fait de préparer l'injection et d'injecter même de l'eau, ça déclenche déjà des effets au niveau cérébral. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du rituel dans l'injection qui est aussi très forte et qui va encore plus rendre complexe le déconditionnement de l'addiction. Bon. Et puis, ensuite, il y a les complications aussi sanitaires. C'est-à-dire que quand vous injectez avec une seringue qui est un peu abîmée, qui a déjà servi et qui n'est pas très propre, ça peut faire des abcès, ça peut faire des emboles, enfin, ça peut faire des trucs un peu embêtants. Et du coup, il y a des conséquences sanitaires. Quand quelqu'un va sniffer, s'il sniffe régulièrement, ben, ça peut faire des saignements de nez, ça peut faire parfois des perforations de la cloison nasale. Enfin, voilà. Ce n'est pas tout à fait le même type de complications et ni tout à fait le même type de profil. Mais ça ne veut pas dire que l'injection, c'est plus grave que de fumer. Et voilà, il n'y a pas d'ordre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit souvent. C'est-à-dire que les gens n'injectent pas. Et c'est vrai que c'est une tendance de plus en plus fréquente. Et considèrent que parce qu'ils n'injectent pas, ce n'est pas grave. Et en fait, ils se font piéger comme les autres. Très rapidement, ils se rendent dépendants de l'héroïne.
I'm still waiting, I'm still waiting. And will I see you again? I'm still waiting, but I keep on dreaming. Sometimes you seem to be right there, seem to be right there. Sometimes you seem to be right there, seem to be there. Sometimes you seem to be right there. Sometimes you're
like no one else. And it seems that you revel in the fit squares into circles.
C'était Alb avec le titre Whisper Under the Moonlight. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes et vous écoutez Enjeux de santé. Nous sommes toujours avec le docteur Guiléry, médecin addictologue, pour parler drogue, cocaïne, héroïne, MDMA. On essaye de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser à ce sujet. Après avoir abordé les effets qu'ont ces stupéfiants sur notre organisme et les risques de dépendance qui y sont liés, quelles sont justement les solutions qui existent pour soigner une dépendance ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend vraiment de quel produit on va parler. Parce que mine de rien, on ne va pas forcément avoir les mêmes profils quand on parle d'un consommateur d'héroïne, d'un consommateur de cocaïne et d'un consommateur d'ecstasy. Parce que les effets sont différents, parce que la dépendance est très différente. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend de l'héroïne régulièrement, il va être physiquement dépendant à l'héroïne. C'est-à-dire qu'il aura besoin tous les jours de prendre son héroïne pour être à peu près bien. Quelqu'un qui prend de la cocaïne, il peut en prendre ponctuellement. La notion de dépendance est quand même moindre. Quelqu'un qui prend de l'ecstasy, c'est quand même rare de tomber sur des gens qui sont dépendants à l'ecstasy. C'est souvent des consommations festives, ponctuelles, voilà, récréatives plutôt. Donc la prise en charge va être très différente d'un consommateur à un autre. Et même si on va avoir une approche théorique, je dirais, par rapport à la notion d'addiction qui va être la même, hein, et elle peut être la même par rapport aux addictions aux jeux vidéo, aux jeux d'argent ou autre chose, il n'empêche qu'il va quand même y avoir un discours particulier qui est lié au produit. Hein. Par exemple, pour quelqu'un qui a une dépendance aux opiacés, à l'héroïne ou à la codéine ou au skénon ou autre chose, on va lui proposer plus facilement des traitements de substitution. Alors qu'il n'en existe pas pour la cocaïne ou l'ecstasy. Pour ces deux autres produits, on va plutôt proposer un accompagnement relationnel, un soutien, des entretiens de type motivationnel, des choses comme voilà, qui vont être plutôt une approche de soutien qu'un traitement spécifique. Donc on va quand même avoir une prise en charge qui va être un peu spécifique en fonction du type de produit consommé.
Et quel est votre rôle au sein de l'Envol, ici à l'hôpital Guillaume Régnier ?
Alors j'ai deux missions, enfin principales. Une première mission qui est de m'occuper des patients qui ont des troubles psychiatriques et qui sont des fumeurs. C'est de les motiver à diminuer leur consommation et à l'arrêter. Et puis un travail aussi autour des équipes pour les sensibiliser. Et l'autre partie de mon activité concerne le centre Méthadone, dit accès facilité. C'est un centre où on donne des traitements de substitution aux patients dépendants aux opiacés, avec des conditions un peu particulières. Et puis, à côté de ça, on développe actuellement une consultation sur le jeu pathologique, les jeux d'argent et jeux vidéo, pour accompagner ces gens qui sont en difficulté avec ces pratiques. Voilà. Donc c'est essentiellement de l'activité de consultation, hein. Et du coup, on travaille sur le relationnel avec parfois des outils thérapeutiques médicamenteux. Mais c'est quand même surtout un travail relationnel.
Si on pense avoir un problème d'addiction, ou si on pense qu'un de nos proches pourrait avoir un problème d'addiction, où peut-on se rendre pour trouver de l'aide ?
Alors c'est vrai que quand on pense avoir un problème d'addiction, peut-être que la première chose à faire, c'est d'en parler avec son médecin traitant. La plupart des choses peuvent se régler quand même aussi avec le médecin traitant. Et soit le médecin traitant va nous orienter le patient, soit les gens vont arriver spontanément dans un centre de soins pour problèmes d'addiction. Et à ce moment-là, il va venir nous voir. Alors, il existe différentes structures qui, je dirais, s'occupent des problèmes d'addiction. Il y a ce qu'on appelle les XAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention pour les addictions. C'est là où je travaille. Et ce sont des centres qu'on dit médico-sociaux qui permettent de proposer des consultations gratuites pour des patients avec des consultations médicales, des consultations psychologues, des consultations infirmiers, assistantes sociales. Voilà. Ça, c'est une première approche. Et puis, il y a aussi des consultations hospitalières, notamment, par exemple, à Pontchaillou, où vous pouvez aussi rencontrer des médecins addictologues pour parler de vos problèmes d'addiction. Il y a aussi des cliniques qui proposent ces soins. Voilà. Saint-Laurent propose aussi des prises en charge en addictologie. C'est vrai qu'au niveau de l'information, ce n'est pas forcément toujours très, très visible, même si on va sur Internet, ce n'est pas toujours simple d'avoir des interlocuteurs bien référencés. Voilà, le circuit, je dirais, c'est médecin généraliste, puis dans un deuxième temps, éventuellement, centre spécialisé.
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions, on va dire, plus d'ordre d'actualité ou plus sur le côté sociologique de ces consommations. Premièrement, quel est votre avis sur les salles de shoot, dont l'ouverture d'une de ces salles à Paris est toujours controversée ?
Alors, la salle de shoot, il faut le voir comme une approche de réduction des risques et des dommages. Je m'occupe, moi, d'un centre de soins méthadone, qui est un centre dit accès facilité. Ça veut dire que c'est un centre qui permet de délivrer à des patients dépendants aux opiacés des doses ponctuelles, journalières, de méthadone. Et ces gens peuvent tout à fait revendiquer à côté une consommation d'opiacés. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle, nous, une phase, la phase de gestion du manque. Ils n'ont pas spécialement envie d'arrêter tout leur comportement, mais en même temps, ils sont en souffrance quand même avec ces consommations. Et donc, l'intérêt aussi de cette structure, c'est de permettre de capter des personnes qui sont un peu dans l'hésitation et de les amener progressivement vers un changement de comportement et vers le soin. Les salles de shoot, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est encore une étape, je dirais, qui va encore plus bas dans la réduction des risques. Et c'est vraiment l'idée de capter des gens qui sont des consommateurs et qui peut-être n'auraient pas fait la démarche de venir vers des centres de soins. Voilà. Et c'est utiliser cette prise en charge, ce cadre particulier, pour justement les inciter à changer leur comportement. Donc voilà, il faut le voir comme un maillon d'une chaîne de réduction des risques. Mais le débat, il a eu lieu aussi quand on a voulu mettre en place des programmes d'échange de seringues en France. Les distributeurs de seringues, les gens étaient scandalisés. Bon, on voit que ça a eu des conséquences majeures sur les contaminations VIH, VHC, voilà. Donc, il faut le voir comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il faut que ça soit pertinent. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse dans des centres, dans des endroits où il y a une vraie nécessité, où il y a un vrai terrain de gens en errance, consommateurs et injecteurs. Donc certaines villes, c'est tout à fait pertinent, d'autres, ça ne le serait pas, pour ma part.
Pensez-vous qu'il existe un tabou dans notre société au sujet de ces drogues et que ces tabous freinent en fait le progrès qui pourrait être fait en soins et en prévention ?
Alors oui, ça, des tabous, il y en a. La question des addictions, c'est une discipline qui est finalement très récente sur l'histoire de la médecine. C'est vraiment très récent. Et même au sein du corps médical, il y a encore beaucoup de débats sur la pertinence de ce concept d'addiction. Donc, au niveau de la société, c'est clair qu'on le ressent aussi. Il y a beaucoup de tabous et on est très mal à l'aise sur l'idée de faire de la prévention sur des conduites addictives, notamment la consommation d'héroïne et de cannabis, alors qu'on est sur des produits illicites et alors qu'il n'y a pas véritablement de débat assumé dans la société sur ces questions-là. Puis en plus, il y a un autre élément, c'est qu'il y a aussi des contradictions entre des attitudes de certains pays européens qui légalise ou qui dépénalise, et puis d'autres pas. Donc tout ça, ça crée de la confusion, et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à avoir un débat un peu sain sur ces questions-là, et sans que ça déchaîne de passion excessive.
Quel est votre regard sur la consommation de ces drogues ces dernières années, on va dire, sur Rennes, par exemple? Avez-vous vu une évolution?
Alors, j'ai sûrement un biais dans la lecture de ce qui se passe, parce que je côtoie surtout des patients consommateurs. Après, il y a des études, notamment les études Trend, qui sont des études, je dirais, régionales, qui permettent d'avoir quand même une approche assez précise des tendances, de l'évolution des consommations. Et ce que disent ces études, c'est que globalement, il y a quand même des consommations qui sont plutôt en baisse, qui concernent l'héroïne et le cannabis et l'alcool, en tout cas de manière chronique. Et par contre, on a une recrudescence ces dernières années de consommation de cocaïne. Voilà. Donc il y a des tendances comme ça à la hausse ou à la baisse. Ce qui semble, mais là aussi il y a peut-être un biais de ma part, mais ce qui semble quand même, c'est que l'accès aux produits soit beaucoup plus facile qu'il y a quelques dizaines ou vingtaines d'années. Voilà, les circuits sont probablement différents et la proposition de substances est certainement plus facile et plus fréquente dans différents endroits de la ville. Ce qui n'était pas le cas, c'est qu'avant, il fallait vraiment connaître le réseau, enfin, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est finalement le vendeur de cannabis peut vous proposer de la cocaïne ou de l'héroïne de la même manière. Donc, je pense que le vrai changement, il est plutôt là. Et comme il y a plus de propositions et plus d'accès facilité, il y a du coup plus de risques de tomber sur des gens fragiles qui seraient susceptibles d'accrocher avec ces produits-là. Je pense que la vraie différence, elle est surtout là. C'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans la mise en place d'une addiction, véritablement. C'est-à-dire que, en effet, beaucoup de gens expérimentent, beaucoup de gens testent des produits. Sur le lot, il y en a quand même assez peu qui rentrent dans un mécanisme d'addiction. Et s'ils le rentrent, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui vont ensemble, c'est-à-dire qui se coordonnent. Il y a vraiment d'abord la fragilité de la personne par rapport à son organisme, c'est-à-dire que vraiment, ils sont un peu programmés comme ça et que le contact avec le produit a déclenché quelque chose de particulier. La deuxième chose, c'est qu'ils ont rencontré une substance à un moment donné et c'est vrai que plus vous avez accès à la substance et plus vous avez le risque de la rencontrer. Et puis la troisième chose, c'est là où il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quand même un contexte de vie qui est particulier. Les gens que l'on suit, nous, en tout cas ici, pour ce qui est de la dépense à l'héroïne, ils ont quand même tous des histoires rocambolesques, compliquées, traumatiques, avec des souffrances, avec des histoires de rupture, de deuil, de violence. Voilà. Donc il n'y a pas tellement de hasard là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le produit est véritablement un moyen de soulager une souffrance psychique. Et donc, avec le temps, les choses s'organisent et on rentre progressivement dans une dépendance physique ou psychologique. Hein, voilà. Mais c'est pas pour banaliser les choses, ni les trop les dramatiser, mais le circuit quand même est assez particulier et assez classiquement sur un contexte compliqué.
Merci au Dr Guiléry d'avoir répondu à nos questions sur le sujet des drogues. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission d'Enjeux de Santé sur notre site internet www.c-lab.fr.